Nous allons dans quelques instants célébrer la table du Seigneur et nous avons lu, nous avons chanté, nous avons chanté ensemble des cantiques qui traitent de l'exaltation de Christ parce que le thème c'est Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons lu dans Philippiens, je vous demande de reprendre ce texte, de Philippiens au chapitre 2. Philippiens au chapitre 2. Les versets 5 à 11, les versets 9 à 11 traitent de l'exaltation de Christ, mais avant cette exaltation, il y a une humiliation de Christ. Et c'est ce que nous voulons considérer ce matin, avant de prendre le temps de participer, de célébrer la table du Seigneur. Nous voulons considérer cette humiliation de Christ, une humiliation volontaire. Nous avons appris dans les questions vérité fondamentale que Christ accomplit son œuvre de rédemption en remplissant les fonctions de prophète, de sacrificateur et de roi. Et nous avons dit qu'il accomplit cela tant dans son état d'exaltation que dans son état d'humiliation. Okay. Et nous avons dans ce passage-là une mise en évidence, je crois, une exposition à la fois de cet état d'humiliation et en même temps de cet état d'exaltation. Versets 6 à 8, c'est l'humiliation de Christ, et versets 9 à 11, c'est l'exaltation. D'autres passages de la Bible traitent de cette humiliation, exaltation, qui sont souvent présentés ensemble. Hein. Même dans l'Ancien Testament, hein, quand l'apôtre Pierre parle de Christ qui était annoncé dans l'Ancien Testament, il dit que les prophètes qui ont prophétisé, eh bien, ils ont parlé des souffrances de Christ et de la gloire dont elle serait suivie, à la fois humiliation et exaltation. Et Jésus, lui-même, il le disait, il faut que le Fils de l'homme souffre de la part des chefs du peuple et qu'après il ressuscite. Hein, on a encore cette humiliation et cette exaltation. Et puis dans l'Épître aux Hébreux, nous sommes encouragés à garder nos regards fixés sur Christ, hein, qui, en échange de la joie qui lui était offerte, il a fait quoi ? Il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, et après il dit qu'il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a souffert la croix, humiliation, et puis ensuite il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc à chaque fois, voyez, cette humiliation, cette exaltation vont ensemble. Mais nous voulons quand même prendre le temps de regarder à travers ce passage de Philippiens quelques pensées sur cette humiliation volontaire de Christ. Et dans ce contexte ici, l'apôtre Paul utilise l'humiliation de Christ pour exhorter les chrétiens de Philippe à l'unité de l'Église, l'unité dans l'Église, dans le corps de Christ. L'humilité et l'unité dans le corps de Christ. Puisque le verset 5 commence avec ces mots, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Mais auparavant, verset 3, par exemple, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et puis ensuite, il les exhorte à avoir les mêmes pensées qui étaient en Christ, et il expose l'humiliation de Christ à cet effet. Donc nous allons considérer ce matin les versets 6 à 8, avec dans un premier temps, on veut considérer la hauteur d'où Christ est descendu, puisque les versets 6 à 8 expriment vraiment la descente, on pourrait dire, l'humiliation de Christ. Mais donc la hauteur d'où il est descendu, puis deuxièmement, la manière avec laquelle il est descendu, et puis enfin, la profondeur jusqu'où il est descendu. On pourrait dire qu'on va regarder ici trois questions. Depuis où? comment et jusqu'où il est descendu, puisque c'est ce que ce passage exprime ici. Donc, premièrement, la hauteur d'où Christ est descendu. L'apôtre Paul dit verset 5, « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Christ existait en forme de Dieu. La lecture de ce texte, si on lit jusqu'au verset 11, ça laisse apparaître un grand U, si vous voulez, ou un grand V, si vous préférez. Christ qui descend, et puis qui est humilié, et puis ensuite qui est exalté. Donc, vous pouvez garder cette image dans l'esprit, un grand U ou un grand V. Donc, comprendre l'humiliation de Christ, c'est d'abord comprendre depuis où il s'est humilié. Il faut saisir depuis où il s'est humilié. Et l'apôtre Paul dit ici qu'il existait en forme de Dieu. Donc, il nous pousse à regarder cette condition de Christ avant qu'il vienne sur la terre. Il dit que Christ s'est humilié, mais pour considérer son humiliation, il faut d'abord regarder qui il était, quelle était sa condition d'avant sa venue sur la terre. Et donc, il dit qu'il existait en forme de Dieu. C'est une manière de dire qu'il était Dieu, qu'il est Dieu. Alors, certains utilisent ce passage, forme de Dieu, pour dire, oui, bon, c'est pas vraiment Dieu, c'est une certaine divinité, etc., mais ce n'est pas vraiment Dieu. Mais ce que, quand on lit tout le reste de l'Écriture, on comprend vraiment ce que l'Écriture dit ici, et on sait que l'Écriture enseigne partout que Christ est Dieu. Et le mot « forme de Dieu » ici, c'est la traduction de mots qui expriment la vraie nature qui ne change jamais. Et donc, il exprime la réalité intérieure, on appelle ça l'essence même. Il ne dit pas que Jésus avait une forme de Dieu sans avoir la nature, mais il dit qu'il était complètement Dieu dans sa nature et dans tout son... on appelle ça son émanation extérieure. Et comme a dit quelqu'un, il dit que la participation à la forme implique nécessairement la participation à la nature ou à l'essence même. Et si on veut comprendre cela, regardez au verset 7, il dit « Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Vous voyez, il avait une forme de Dieu, il a pris une forme de serviteur. Et quand on dit qu'il a pris une forme de serviteur, on ne veut pas dire simplement qu'il ressemblait de loin à un serviteur. On comprend bien dans l'Écriture qu'il était vraiment un serviteur. Donc c'est comme ça qu'on comprend cela quand on lit qu'il a pris la forme de serviteur. Donc quand il dit qu'il existait en forme de Dieu, ça veut dire qu'il était Dieu lui-même et qu'il est Dieu lui-même. Que Christ occupait le rang le plus élevé qui soit, et il était perçu comme Dieu. Et ce que Paul exprime ici, c'est sa pleine et entière divinité. Il a toujours été Dieu. Son égalité avec Dieu, il le dit plus loin, il est rappelé parce qu'il dit existant en forme de Dieu, il n'a plus regardé son égalité avec Dieu. Donc l'apôtre Paul souligne bien cette égalité avec Dieu. Et je l'ai dit tout à l'heure, partout dans l'Écriture, on trouve cela. Alors j'insiste parce que parfois, je sais que ça peut traîner, ça dépend par quel milieu on est passé, et on peut garder, un peu à bas bruit, un petit peu comme ça, la pensée que, c'est pas suffisamment clair. L'Écriture est suffisamment claire que Jésus-Christ est Dieu. Jean 1:1 dit, au commencement, la parole était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et puis pour qu'on puisse bien comprendre que c'est toutes choses, il dit « Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc il n'y a absolument rien qui existe dans le monde qui n'ait pas été fait par Christ, par la seconde personne de la Trinité. Donc il est Dieu, et en tant que Dieu, il jouissait de toutes les prérogatives de Dieu. Honneur, gloire, majesté, adoration, toutes ces choses lui sont dues. En tant que Dieu, il avait tous les droits qui sont liés à sa position de Dieu, à son rang, à sa nature, à sa majesté. Donc, Paul dit ici, il enseigne ici aux chrétiens de Philippe d'avoir l'attitude qu'il faut en considérant l'humiliation de Christ. Mais il commence par dire qui est Christ vraiment. Il est Dieu de toute éternité. Hein. Le Fils, Dieu le Fils, c'est le Fils unique du Père. Hein. Il est éternellement Dieu, hein, nous disons dans notre apprentissage de vérité. Ça, c'est la première chose. D'où est-ce qu'il est descendu? Eh bien, il est descendu de la position même de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'humilie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais souligner, et qui est un point beaucoup plus long ici que l'apôtre Paul développe, c'est la manière avec laquelle il s'est humilié. Regardez le verset 6, toujours existant en forme de Dieu, il dit « Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. » Premièrement, ici, on voit déjà dans la manière avec laquelle il s'est humilié, il y a une certaine mentalité, une certaine pensée. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher, la Bible nous dit, d'être égal avec Dieu. Donc l'apôtre Paul attire ici la pensée sur la manière avec laquelle Christ a considéré sa propre position ici. Il exhorte donc à déceler cette pensée qui l'animait concernant sa position de Dieu. Je lis le verset dans deux, trois autres traductions. Dans la traduction Darby, il dit « Étant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. » Dans le texte Parole de vie, il dit « Lui, il était l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix. » Pour lui, comment il la traduit. Et puis dans second 21, il dit « Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Okay? » Donc ce n'est pas qu'il a cherché à avoir une égalité qu'il n'avait pas, c'est qu'il n'a pas cherché à garder l'égalité qu'il avait, à l'utiliser comme un obstacle à son humiliation, à sa venue sur la terre. Donc l'idée ici, c'est que Jésus vraiment n'a pas utilisé sa condition divine comme un prétexte pour affirmer qu'il refusait l'humiliation. Il aurait pu exiger de plein droit toutes les prérogatives qui sont liées à sa condition de Dieu, mais il ne l'a pas fait ici. Et comme a dit, le texte dit après, non seulement il n'a pas gardé cette égalité, mais il est venu comme un serviteur, comme un homme. Et quelqu'un a écrit, un théologien qui s'appelle MacLeod, il a écrit que Christ aurait pu refuser de devenir serviteur. Il aurait pu, en disant qu'il est Dieu, il aurait pu, en acceptant d'être envoyé, exiger que ce soit selon le respect dû à sa dignité. Il aurait pu demander à venir, non pas incognito, dans un petit village, on pourrait dire, de Bethléem, à Bethléem, mais avec tout l'éclat de la manifestation divine, hein, comme Yahweh sur le mont Sinaï en Exode chapitre 19. Il apparaît dans sa majesté. Ou comme lui-même lors de son retour glorieux, il aurait pu exiger comme cela. Ou comme le tentateur lui-même l'avait suggéré, hein, il aurait pu exiger d'être dans sa manifestation de fils de Dieu. Mais tout cela, il ne l'a pas fait. Christ n'a pas exigé son égalité avec Dieu comme un prétexte qui aurait pu demander quelque chose même en venant sur la terre ou refuser qu'il vienne carrément sur la terre. C'était son droit, dit-il, mais en étant de condition divine, il n'a pas fait valoir ce droit. Et c'est ce que Paul explique ici. Il dit, étant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité comme une proie à arracher. Et c'est la pensée qui anime Christ. Quand on lit l'Épître aux Hébreux, on lit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Donc ça, c'est ce que Christ dit en entrant dans le monde. L'Épître aux Hébreux nous ouvre un petit peu ce qu'il pense, ce qu'il dit en venant dans le monde. Et il dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, Hébreux chapitre 10, versets 5 et 7, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voilà quelle était sa disposition d'esprit. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il n'a pas regardé à son égalité de Dieu comme quelque chose qu'il fallait absolument préserver, qui serait un obstacle à sa venue parmi les hommes. Les hommes considèrent souvent leur position, n'est-ce pas ? Quand on a un petit peu de position, on insiste là-dessus. On parlait avec des frères et sœurs cette semaine qui vont dans les administrations déposer une demande, que ce soit pour un titre de séjour ou autre, et qui se trouvent face à des personnes qui refusent de lever le petit doigt. Et ces gens me disent, mais on a l'impression que ces personnes ont un pouvoir et qu'elles jouissent de ce pouvoir, mais pour nuire, uniquement pour nuire. Hein. Voilà, ce n'est pas un vrai pouvoir, mais vous voyez que c'est comme ça que nous sommes, n'est-ce pas ? Quand on a quelque chose, on veut pouvoir l'utiliser. On a un droit ou un petit pouvoir, on veut pouvoir l'utiliser. Mais Paul montre ici que celui qui a tous les droits, il n'a pas regardé à cela et il a été habité par une mentalité qui a fait qu'il a laissé ces choses pour venir jusqu'ici-bas sur la terre. Ça, c'est un petit peu une des manières par lesquelles Christ s'abaisse, mais il y en a d'autres que l'apôtre souligne ici. Il parle de son incarnation. Il y a sa mentalité ici, sa manière de considérer ce qu'il est, mais il y a aussi son incarnation. Regardez verset 6. Donc verset 6, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité comme une proie arrachée. Verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est vidé. Le mot est traduit ailleurs par « il s'est anéanti ». D'accord ? Parfois, d'autres traductions de ce mot donnent quelque chose qui est rendu vide, rendu vain. Et on peut associer ce verset avec 2 Corinthiens chapitre 8-9 où il est dit que de riche qu'il était, il est devenu pauvre. Comme s'il a abandonné sa richesse pour venir jusqu'à nous. Donc la question qui vient parfois à l'esprit, c'est de quoi est-ce que Christ s'est dépouillé ? L'apôtre Paul ne dit pas de quoi il s'est dépouillé, mais il dit plutôt comment il s'est dépouillé. Ici, si on lit bien le verset. Hein. Alors certains disent, oui, il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait. Hein. Son omniscience, son omniprésence, toutes ces choses. Il a cessé d'être Dieu. Non, on lit dans notre apprentissage qu'il est, étant sur la terre, il est demeuré parfaitement Dieu et parfaitement homme, d'accord, avec la nature humaine et la nature divine. On dit qu'il n'y a pas de mélange, de confusion dans ces deux natures, mais il est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Et encore aujourd'hui, il est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Et donc, quand Paul dit ici qu'il s'est vidé, ça ne veut pas dire qu'il n'était plus Dieu, du tout qu'il a tous les attributs, les caractères de Dieu n'étaient plus là, mais plutôt, il dit, il s'est vidé en prenant quelque chose. C'est en ajoutant quelque chose qu'il s'est dépouillé. Il s'est humilié, non pas en enlevant ce qu'il est, mais en devenant quelque part ce qu'il n'était pas. Un serviteur, un homme. C'est ce que le texte dit ici. Regardez bien, il dit « existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une poix arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Ici. Donc, il est devenu un serviteur. Et quand il dit qu'il a pris la forme de serviteur, on a déjà dit, ça veut dire qu'il assume pleinement le caractère de serviteur. Lui qui est Dieu, béni éternellement, et que tout ce qu'il a créé est appelé à le servir, à l'adorer, il se fait serviteur. Il s'humilie en devenant le serviteur. D'abord, le serviteur de Dieu, Ésaïe 42, un dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. » Et puis Ésaïe 53, qu'on lit souvent quand on prend la scène, il dit « À cause du travail de son âme, verset 11, Ésaïe 11, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. » Mon serviteur juste. Il est appelé le serviteur. Dans le livre d'Ésaïe, on dit que c'est le livre du serviteur. Christ est présenté comme le serviteur souffrant. Mais il dit aussi qu'il est venu sur la terre dans l'Évangile, non pour être servi, mais pour servir. Donc on voit, c'est un caractère, une attitude de serviteur de Dieu, mais aussi il s'est mis au service des hommes. Il est l'égal de Dieu, il se met au service de Dieu. Il est bien au-dessus des hommes et il se met aussi au service des hommes. Donc, c'est ça qui est la chose importante à retenir ici. Christ s'est dépouillé en devenant le serviteur de tous, le serviteur parfait. Il s'est dépouillé en même temps en devenant un homme semblable aux hommes. Regardez, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, mais en devenant semblable aux hommes. Il aurait pu s'humilier en devenant semblable à une autre créature. S'il devenait un ange. Un ange, c'est une créature de Dieu. Est-ce qu'il se serait humilié en devenant un ange? Oui, oui. Il devient comme une de ses créatures, d'accord? Mais il ne s'est pas humilié en devenant un ange. Les anges sont bien au-dessus de nous, n'est-ce pas? Il s'est humilié juste à devenir un homme. C'est ce que la Bible dit ici. Il est devenu semblable aux hommes. Hébreux 2, 14 dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort. » Il a participé à la chair et au sang. C'est ce que dit le texte ici. Donc, il s'est identifié aux hommes, il est devenu un homme, et pas simplement, il aurait pu devenir un homme haut placé, n'est-ce pas? Il aurait pu devenir, un homme, mais bon, certains pensent, voilà, un homme, un surhomme, quelque part. Mais la Bible dit non, qu'il est devenu un véritable homme. Dieu, il a pris une chair, la Bible dit, semblable à la chair du péché. Non seulement il est devenu un homme, mais il est devenu un homme sujet aux conséquences du péché. Tout ce que nous vivons en conséquence du péché, il le vit. La fatigue, la soif, la faim, le vieillissement des cellules. Il est devenu un homme en embrassant les conséquences même que le péché a sur nous. Christ accompli, on pourrait dire, son service, cette humiliation, dans la condition de l'homme déchu. Pas dans la condition d'un homme qui est un surhomme, ici. Et le texte dit qu'il est, pour bien nous faire sentir cela, qu'il est devenu un homme et qu'il a paru comme un, quoi, vrai homme, comme un simple homme, d'autres disent. Parce qu'il y en a qui, comme on l'a dit tout à l'heure, ils peuvent penser, oui, homme, mais il faisait ça et puis hop, il y a tout qui bouge. La Bible dit qu'il est venu comme un simple homme ici. Même dans la condition humaine, il a choisi de devenir à la condition la plus basse. Il aurait pu naître, il aurait pu devenir en tant qu'adulte. Il arrive à 33 ans, 30 ans, 3 ans de ministère, et puis voilà. Non, mais il est venu sous la forme la plus fragile, celle d'un bébé. Et quand il vivait sur la terre, il n'était pas auréolé de gloire. Les gens ne se disaient pas, waouh, vous avez vu passer cet homme? Hein, il y a quelque chose qui émane de lui. On voit que ce n'est pas comme tous les autres, etc. Il était, non, il était un simple homme. Et d'ailleurs, les gens lui disaient, toi qui... Les contemporains de Jésus n'avaient pas de problème avec son humanité. Ils disaient, nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est que toi qui es un homme, tu te fais passer pour Dieu. C'était ça leur problème. C'était, ils voyaient un homme tout à fait naturel, un charpentier qui avait travaillé de ses mains, qui avait des frères, des sœurs, et qui se disait Dieu. Donc ils n'avaient pas de problème avec l'humanité de Christ. Et Paul dit ici qu'il est venu comme un vrai homme. Isaïe dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. C'était même pas avec la barbe bien taillée, les cheveux, les traits bien tirés, hein, cette espèce de personnage qu'on voit dans les magazines, hein, les hommes auxquels tous les autres hommes veulent ressembler. Hein, il dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il passait et personne ne tournait la tête. D'accord ? Il ne laissait aucune impression. D'accord ? C'est comme ça qu'il est venu ici. Et la plus grande partie de sa vie était cachée. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait de 12 ans à 30 ans? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est comme si voilà, Dieu voulait garder ces choses dans l'humilité. Hein. Il montre vraiment, on aurait pu dire, quand même, c'est le personnage le plus important de l'univers. Il vit 33 ans sur la terre. D'accord ? Il y a une vingtaine d'années où on ne sait pas ce qu'il a fait. Dieu n'a pas voulu relater ce qu'il a fait. Il a vécu une vie d'homme normal, d'enfant obéissant, soumis à ses parents. Hein? Même quand il avait 12 ans, il était conscient un petit peu déjà de certaines choses. Eh bien, ses parents viennent le chercher. La Bible dit, j'aime bien, la Bible dit, il repart avec ses parents et il leur était soumis. Il leur était soumis. Voilà comment il est venu. Il était de condition divine, mais il a paru comme un simple homme de son époque, avec toutes les limitations de la nature humaine. On n'a pas le temps de développer tout cela, mais il a connu toutes les limitations. La fatigue, la faim, la soif. Il ne connaissait pas tout. Quand il était bébé, il ne connaissait pas tout. Il a dû apprendre des choses. La Bible dit même qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et en grandissant, il a appris au fur et à mesure les choses. Donc c'était un vrai homme. Il n'a jamais utilisé la puissance en tant que Dieu pour se sortir d'une situation difficile pour lui-même. Quand le diable lui dit, mais si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il pourrait le faire? Oui. C'est pas fait. Lorsque Pierre tire son épée et qu'il coupe l'oreille de Malchus, comme ça s'appelle, hein, il dit, range ton épée. Il dit, ne crois-tu pas que je pourrais demander à mon père des anges et à l'instant, j'aurais une légion d'anges qui serait là. Il pourrait juste demander. Il dit, et le père m'enverrait une légion d'anges. Donc, je n'ai pas besoin de ton épée. Il a refusé, il a vécu toute sa vie comme un simple homme. Mais l'apôtre Paul va plus loin dans cette humiliation qu'il décrit de Christ. Non seulement il était un homme, un vrai homme, un simple homme, mais il dit au verset 8, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant. Il s'est rendu obéissant. Le mouvement descendant que Paul décrit ne s'arrête pas au fait qu'il est un homme, mais qu'il est un simple homme, et il descend encore plus profondément pour dire qu'il est un simple homme obéissant. Il s'est dépouillé, il s'est vidé, il est devenu obéissant. Que font les hommes en marque d'humilité, souvent ? Hein ? On dit que parfois des personnes sont humbles, etc. Eh bien, de temps en temps, elles prennent un balai pour passer un balai. Pour dire, oui, voilà, bon, ouais, c'est vrai, il est humble, c'est quelqu'un comme ça, mais il prend le balai, il passe le balai, etc. Bon. Mais des fois, c'est juste pour être vu. Hein, c'est une espèce de forme d'orgueil. C'est pour dire, regardez, moi qui suis ça, je peux faire ça. Hein. On peut prendre plein d'exemples. Hein. De temps en temps, ils disent, moi, je suis rien, je vaux rien. Oh non, non, moi, tu sais, parfois des gens qui parlent comme ça. Hein. Pas grand-chose, je ne sais pas faire grand-chose. Hein. Okay. Enfin, on est comme ça, on baisse la tête pour dire non, non, enfin, vraiment, je ne suis qu'un serviteur inutile. Alors, c'est bien de le dire, je ne sais pas que ce n'est pas bien de le dire, mais ce n'est pas encore cela, l'humilité, ici, selon le texte que nous lisons. La Bible dit ici que Christ s'est humilié en se rendant obéissant. Il y a des personnes, ça peut nous arriver, de chercher à montrer des formes d'humilité. Mais quand il faut obéir, quand il faut montrer l'obéissance, ça c'est plus difficile. Naturellement, nous n'obéissons pas. Nous n'aimons pas obéir. Ni à nos parents, ni à nos patrons, ni aux anciens d'une église, ni à quiconque. On peut faire l'effort de montrer une certaine humilité. Mais obéir, c'est un mot qui nous horripile. Une fois, je me souviens avoir dit à un étudiant, « Mais non, je vous dis de faire ça, vous obéissez. » Mais quoi ? Obéir ? Non, on préfère, je vous donne une consigne, vous devez la suivre. Ça, c'est quand même... Mais le mot « obéir » est un mot que l'on n'aime pas. Pourtant, le texte montre ici que le cœur de l'obéissance de Christ, de l'humilité de Christ, c'est son obéissance. C'est son obéissance. L'obéissance est la marque de l'humilité. Le premier Adam a brillé par sa désobéissance. Et le second Adam a brillé par son obéissance. Et l'apôtre Paul synthétise cela dans un verset, en Romains 5, 19, il dit « Car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Et donc il oppose la désobéissance d'Adam à l'obéissance de Christ. Il est obéissant envers son Père, hein, on parle même de cette obéissance active, de cette obéissance passive de Christ. L'obéissance passive, c'est ce qu'il a subi en mourant à la croix. L'obéissance active, c'est toute sa vie juste qu'il a vécue en observant toute la loi. Il a été toute sa vie un obéissant, ici. Et donc, Paul montre ici que Christ s'est humilié en manifestant cette profonde obéissance. Toute sa vie a été marquée par l'obéissance. Lui-même disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Pour nous, l'obéissance, ici, rencontre toujours de l'opposition. Je le disais tout à l'heure, rien que le fait d'évoquer le mot, ça nous gêne. Dans les évangiles, par exemple, Jésus raconte l'histoire de deux fils. Vous vous rappelez en Matthieu chapitre 21, versets 20 à 31, on ne va pas lire, mais de deux fils que le père envoie travailler dans son champ. Et puis le premier dit, j'irai. Et la Bible dit qu'il n'est pas allé. Et le second dit, je n'irai pas. Et la Bible dit qu'il se repent et qu'il y va. Mais je vous fais remarquer que dans les deux cas, ils étaient tous les deux désobéissants. Le premier a ouvertement affiché son le premier a fait semblant de vouloir obéir, mais finalement il n'est pas allé, donc il était désobéissant. Et le second, il a commencé par manifester sa désobéissance. Il a fallu la repentance pour qu'il y aille. Donc naturellement, ce qui sort, le premier, c'est ce que je lui montre dans le cœur, c'est la désobéissance. Et je parlais avec un frère cette semaine. Il disait, on se dresse toujours contre ce que Dieu dit, ce que Dieu est. Si Dieu disait, par exemple, que le bleu est une bonne couleur, aucun homme n'aimerait le bleu. Ça se passerait comme ça. Simplement parce que c'est Dieu qui l'a dit et le cœur naturel de l'homme se dresse toujours contre Dieu. dans la désobéissance. Si Dieu dit « faites ceci », il fera cela. Et on regarde avec ce qui se passe dans notre monde, les gens applaudissent quand arrivent au pouvoir des présidents ou des présidentes qui sont un peu avec les mœurs sociétales que tout le monde recherche maintenant. D'accord ? Si quelqu'un vient en disant « non, voilà, la Bible, moi je suis chrétien, je crois à la Bible, l'homosexualité est un péché, vivre comme si c'était un péché », eh bien, il est rejeté parce que voilà, on ne veut plus accepter ces choses-là. Tout ce que Dieu dit, on est contre tout ce que Dieu dit. Mais la Bible dit ici que Christ est devenu obéissant. Il est venu pour faire la volonté de Dieu. Et quelqu'un même dit que son obéissance est un gage certain de sa divinité et de son autorité. Le fait que Christ obéisse, c'est un gage qu'il est divin. Seul un être divin peut accepter la mort comme marque d'obéissance, il dit ici. Pour les hommes ordinaires, c'est une nécessité. Vous et moi, nous mourrons si Christ ne revient pas avant que nous mourions. Il dit, mais pour Christ, lui seul, comme fils obéissant de son Père, pouvait choisir la mort comme destinée. Christ meurt parce qu'il a choisi de mourir. Il meurt parce qu'il était obéissant. Il meurt par obéissance. C'est-à-dire que nous mourons par nécessité. D'accord ? Donc, il montre à quel point ici l'obéissance de Christ est grande. Et puis, je voudrais, pour finir, souligner ici, troisièmement, la profondeur d'où Christ est descendu. Donc, d'où il est descendu, comment, par l'incarnation, l'humilité, l'obéissance profonde, mais jusqu'où il est descendu, l'apôtre Paul dit, va un pas plus loin, verset 8, il dit, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est déjà quelque chose, mais il dit, jusqu'à la mort de la croix, même jusqu'à la mort de la croix. L'extrémité de cette obéissance de Christ, c'est d'aller jusqu'à la mort, mais ce n'est pas encore assez bas, jusqu'à la mort de la croix. Et puis vous direz, mais après tout, quand on est mort. Qu'on soit mort dans son lit, qu'on soit mort dans un accident de voiture, qu'on soit mort parce qu'on nous a transpercé avec une épée, on est mort, on n'est pas plus mort parce qu'on est mort sur la croix que si on meurt dans son lit. Et c'est vrai ici. Mais il faut comprendre que le supplice de la croix était une forme hideuse, la plus hideuse à l'époque, la plus vile qui soit pour mourir. Et chez les Romains, ce châtiment était réservé seulement aux esclaves. Aucun citoyen, seulement vraiment aux esclaves ici. Ce supplice était calculé, dit quelqu'un, pour infliger le maximum de souffrance le plus longtemps possible. Et les Romains, ils avaient réfléchi comment faire mourir quelqu'un de la manière la plus atroce, mais il fallait que ça dure le plus longtemps possible. Ils ont trouvé la crucifixion ici. Donc c'est une mort qui est une mort très lente. Et j'ai lu qu'il arrivait que certains suppliciés mettent 2 ou 3 jours avant de mourir. Et ils étaient dans d'atroces souffrances. Et c'est pour ça que, quand vous lisez les évangiles, on brisait, pour aller plus vite, on brisait les os afin d'accélérer le processus. Mais Christ, lui, on n'a pas eu besoin de lui briser les os. Parce qu'il est mort par obéissance. Parce qu'il a donné lui-même sa vie. Il dit, je donne ma vie, je la reprends. Personne ne me l'ôte. Il n'est pas mort parce que les hommes ont fait du sang. Il est mort parce qu'à l'heure qu'il avait choisi de toute éternité de mourir, il l'a fait par obéissance. Et donc, le commentateur John MacArthur dit ceci, il fait remarquer que pour les Juifs, la crucifixion était considérée comme une sorte de pendaison. Et c'est pour ça que dans Deutéronome, il dit, Deutéronome 21, je vous lis, il dit, si l'on fait mourir un homme, et que tu l'es pendu au bois, donc c'est comme la crucifixion, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne jouiras point le pays de l'Éternel ton Dieu, que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Donc quand quelqu'un était pendu, c'était un objet de malédiction. Il fallait le sortir parce que c'est une malédiction aux yeux de Dieu. L'apôtre Paul reprend cette image, ce texte du Deutéronome dans Galates chapitre 3, lorsqu'il parle de Christ. Et il dit ceci, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Et il semble que le texte, le sens ici, ce n'est pas qu'il est devenu malédiction parce qu'il a été pendu, mais il a été pendu parce qu'il a été fait malédiction. Vous voyez ici ? Il dit que le fait que Christ a été mis en croix, c'est qu'il a été fait malédiction pour nous. Et voilà jusqu'où il est allé. Pas simplement à mourir, mais à mourir en homme maudit. Et c'est pour cela que les Juifs ne recevaient pas Christ crucifié. C'est une folie, le Messie crucifié. Mais le Messie crucifié, c'est une malédiction. Il ne peut pas être le Messie. Même pour l'apôtre Paul, c'était la même chose. C'est pour ça qu'il poursuivait les chrétiens au début, jusqu'à ce que Christ l'arrête et qu'il voit Christ ressuscité et qu'il se dise, mais non, mais il est ressuscité, donc il n'est plus malédiction. Mais s'il est mort, c'est donc pas pour lui-même qu'il est mort, c'est pas parce qu'il était un pécheur qu'il est mort, c'est qu'il est mort à la place de quelqu'un d'autre, en substitut. Et il écrit ici, hein, n'est-ce pas ? Il a été fait malédiction. Pour nous, c'est pour nous qu'il a été fait. Donc là, le disque tout ruisselle, tout se remet en place et pendant 3 ans, tout ça, Dieu remet tout ça en place dans son esprit et il devient l'apôtre que l'on connaît, convaincu de ce que Christ a fait. Il peut dire maintenant, Christ a été fait malédiction pour nous. Oui, il s'est humilié lui-même, se rendant, prenant la forme d'un serviteur, devenant comme un homme, comme un simple homme. Et il s'est humilié juste devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à devenir malédiction pour nous. Et parce qu'il a fait tout cela, eh bien Dieu a donc souverainement élevé. Et donc je termine, chers frères et sœurs, en disant que, en vous rappelant que l'apôtre Paul utilise ces vérités de l'humiliation de Christ pour encourager les chrétiens à l'unité dans l'Église. Et donc, on pourrait souligner que les vérités théologiques ici, de l'humiliation de Christ, même toutes les vérités théologiques, aussi profondes soient-elles, ce ne sont pas simplement des tableaux que nous devons contempler, hein, ici, mais des exemples aussi que nous devons imiter. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il donne une exposition de son humiliation. Il dit, voilà ce que vous devez avoir en vous. Lorsque vous prenez la table du Seigneur, que vous pensez à l'humiliation de Christ, voilà ce que vous devez avoir comme pensée et comme sentiment. Est-ce que vous êtes obéissant ? La question que cela nous pose, à nous poser. Lorsqu'on me demande quelque chose à l'Église, est-ce que j'obéis ? Ou est-ce que je dis, personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire ? Je suis assez grand pour savoir ce que je dois faire. Ou est-ce que j'ai une attitude de Christ qui se rend obéissant ? L'apôtre Paul dit, par amour, rendez-vous serviteurs les uns des autres. Est-ce que mon amour me pousse à être serviteur les uns des autres ? Ou est-ce que plutôt je cherche à être servi ? Il dit, l'humiliation de Christ n'est pas faite que pour être chantée dans un culte. Elle est faite pour être vécu en tant que chrétien véritable. Nous sommes appelés à refléter le caractère de Christ. Alors, est-ce que je m'humilie ou est-ce que je regarde ma position comme quelque chose qui m'empêche de servir ? Oh, moi, je ne vais pas faire le ménage à l'église, oh, j'ai autre chose à faire quand même. C'est pas... Ou je ne vais pas m'occuper de telle personne parce que bon, c'est pas mon rang, Vous pouvez poser toutes sortes de questions. Est-ce que quand l'Écriture me dit de me repentir, je me repens ? Est-ce que j'obéis ? C'est ça, dans tous les domaines. Est-ce que je me tourne vers Christ ? Est-ce que je sers dans l'Église comme l'Écriture me le commande ? Est-ce que je suis soumis en tant que femme à mon mari comme l'Écriture me le demande? En tant qu'enfant à mes parents comme l'Écriture me le commande? En tant que membre d'Église ou dirigeant de l'Église comme l'Écriture me le commande? En tant qu'employé au patron comme l'Écriture me le commande? C'est là que l'humiliation de Christ doit prendre une réalité dans la vie du croyant. Et je rajouterai une chose ici, cette humiliation de Christ montre combien est nécessaire le salut de notre âme. Si Dieu a dû aller descendre jusque-là pour racheter les âmes, cela montre combien il est important, combien est nécessaire le salut de l'âme. Je ne peux pas rester insensible et indifférent à cela. Christ a fait cela pour que je puisse avoir la vie. Et donc il m'appelle à me tourner vers lui, à me détourner du péché, à me repentir et à croire en lui. Et donc si vous êtes dans cette salle ce matin que vous ne le connaissez pas, méditez sur ce que Christ a fait. Il l'a fait pas pour lui-même. L'apôtre Paul dit, il est devenu malédiction pour quelqu'un d'autre, pour vous, afin que vous puissiez devenir justice de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce à quoi doit nous pousser la méditation de ce passage. Je voudrais qu'on termine en chantant, on a déjà chanté tout à l'heure, mais encore une strophe du cantique, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Nous voulons chanter cela.